Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bienvenue sur Radio Classique, il est 8h.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
S'il y a encore un domaine où l'Union européenne est en train de voler en éclats, c'est bien la pandémie. La France fait peur à ses voisins, même ceux qui n'ont d'ailleurs ne font pas partie de l'Union, comme la Suisse. L'Italie exige désormais un test négatif pour les voyageurs en provenance de 7 régions, dont la région parisienne. Certains médecins que vous allez entendre agitent le spectre du reconfinement total. Voilà où nous en sommes ce matin, avec aux États-Unis 200 000 morts. Le Tour de France rattrapé par le dopage. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête. C'est une équipe française qui est dans la tourmente ce matin. Elle s'appelle Arkea Samsic. Et puis le groupe Casino sous le feu des OMG l'accuse d'encourager la déforestation en Amazonie. On vous explique tout à la fin de ce journal. Il est pile 8h, 8h et même une minute. Voici Lucille Bréau.
Radio Classique.
Une question est à la une, ma chère Lucille, ce matin. Va-t-on pouvoir échapper au reconfinement total ?
Le gouvernement le souhaite, vous le savez, mais pourtant certains médecins sont très pessimistes. Ce matin, pour eux, il suffit de regarder les chiffres. Près de 5300 nouveaux cas identifiés hier. Un niveau de positivité des tests qui augmente et des lits qui se remplissent en réanimation. Pour l'épidémiologiste Catherine Hill, dans un mois, nous serons tout simplement revenus à la situation de mars dernier.
Les réanimations dans 4 semaines, c'est les contaminations d'aujourd'hui et c'est là qu'on voit qu'on va directement dans le mur. Dans 8 semaines, on en sera facilement à 600 ou 700 nouveaux cas en réanimation par jour, comme on avait le 1er mars. Et la mortalité va déjà commencer à augmenter dans les 4 semaines qui viennent. Si ça continue après, on va atteindre des situations pas absorbables. Ça va faire qu'empirer, sauf si on reconfine.
La seule bonne nouvelle dans ce tableau bien sombre, le nombre de morts ne devrait pas exploser. En tout cas, si l'on en croit Jonathan Freud, il est urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
La mortalité, elle baisse. Les temps de passage en hospitalisation et en réanimation diminuent. On s'est amélioré sur la prise en charge. Pour les malades graves, c'est un moindre recours à l'intubation, donc sans mettre les patients en coma artificiel. C'est l'utilisation des corticoïdes pour les malades très graves et l'utilisation des anticoagulants. Il est fort probable que, du fait d'une meilleure disponibilité des lits de réanimation dans certains endroits, on puisse admettre des malades en réanimation un peu moins graves que ce qu'on admettait début avril.
Des propos recueillis par Rémi Pfister.
À propos, évidemment, qui sont ô combien importants. Mais la France inquiète de plus en plus, je le disais depuis le début de cette session, ses voisins.
Et oui, l'Italie, par exemple, Guillaume, vient de décider d'imposer un test aux voyageurs en provenance de 7 régions françaises, dont l'Île-de-France. Jean-François Riel, le président de Voyageurs du Monde, était l'invité de Radio Classique il y a quelques minutes. Pour lui, c'est une catastrophe de plus, alors qu'il ne tourne déjà plus qu'à 10% de son activité.
Comme la France est un des pays qui a le plus de cas, ça inquiète tous les pays qui reçoivent des Français. Donc même les Italiens, vous avez vu hier, ont décidé d'imposer des tests PCR à l'arrivée à 7 régions françaises. On est dans une situation ubuesque et honnêtement, on se demande si l'Union européenne existe sur ce sujet, quoi.
Jean-François Riel, le président de Voyageurs du Monde, au micro de Dimitri Pavlenko. Emmanuel Macron, lui, a rendez-vous cet après-midi dans un EHPAD du Loir-et-Cher à Bracieux pour rencontrer résidents et soignants. Les EHPAD où 178 clusters se sont déclarés depuis la reprise de l'épidémie. Les professionnels continuent de demander plus de moyens et surtout plus de bras.
Voilà, et aux États-Unis, on vient de passer la barre des 200 000 victimes, ce qui, avec projection pour le mois de décembre, c'est-à-dire la fin de l'année, pourrait aboutir au chiffre de morts le plus terrible dans l'histoire américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre de sécession et la grande pandémie de 1918, ce qui paraît quand même absolument incroyable. Et dans ce contexte, plus que jamais, la recherche doit rester une priorité.
Oui, pour tenter de trouver un vaccin, par exemple. La recherche, il en est justement question en ce moment. À l'Assemblée nationale, son budget est en débat depuis hier. Le gouvernement a promis d'investir 25 milliards d'euros sur 10 ans. Les syndicats parlent d'augmentation en trompe-l'œil. Qu'en pensent les chercheurs eux-mêmes? Marc Tédé leur a posé la question.
Ces 25 milliards d'euros seront en grande partie affectés à la recherche par appel à projet, au détriment du budget de fonctionnement, ce que regrette Frédéric Braun, maître de conférence en biologie à l'université Paris Diderot.
L'argent du CNRS ou de l'INSERM, l'université, ne paye les salaires, mais le fonctionnement, il faut le trouver. Donc des fois, il y a même des laboratoires où ils n'ont pas de quoi fonctionner. Il faut acheter nos stylos, il faut acheter nos ordinateurs, il faut tout acheter.
Raphaël Rodriguez de l'Institut Curie salue un effort significatif, mais pour lui, le salaire minimum de recrutement à 2 SMIC, soit 2440 euros net par mois, reste trop faible.
C'est très largement insuffisant. J'ai passé 8 ans à Cambridge, j'ai fait une partie de ma thèse à Oxford. Quand j'étais recruté au CNRS, j'avais un bac plus 15. Mon premier salaire, c'était 1750 euros par mois. Ça fait quand même pas énorme.
Quant au nouveau mode de recrutement, il renforce la précarité, selon Christophe Deroulers, enseignant-chercheur en physique à l'Université de Paris.
On a vu un certain nombre de gens se retrouver sur des postes précaires à cause du financement sur contrat, un an, deux ans, etc. Donc ces gens-là, effectivement, ils sont dans une situation précaire. Ça risque de les maintenir là-dedans. On retarde l'entrée dans l'emploi permanent.
Autre risque, dit-il, favoriser une fuite des cerveaux vers le privé ou à l'étranger.
Ouais, des témoignages recueillis par Marc Tédé. Charlie Hebdo encore et toujours menacé. En plein procès des attentats de janvier 2015, la DRH de l'hebdomadaire Marie Cabrette a dû être exfiltrée de son domicile en 10 minutes il y a une semaine à cause de menaces jugées sérieuses par les autorités. Al-Qaïda, entre autres, a appelé à s'en prendre de nouveau à Charlie Hebdo qui a réédité, vous le savez, les caricatures de Mahomet à l'occasion du procès qui se tient en ce moment.
Le Tour de France, lui, est rattrapé, ma chère Lucille, par le dopage.
Et c'est une équipe française, Guillaume, qui est dans la tourmente ce matin. Arkéa Samsic, deux personnes membres de l'entourage de son leader, le Colombien Nairo Quintana, sont à l'heure où on parle en garde à vue. La conséquence de l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Marseille hier pour des soupçons de dopage, 24 heures à peine après l'arrivée sur les Champs-Élysées, Augustin Lefebvre.
Oui, il s'agirait d'un médecin et d'un kinésithérapeute, d'après nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Un médecin colombien comme Nairo Quintana et son frère, lui aussi cycliste. Les deux coureurs de l'équipe ont été auditionnés hier par les enquêteurs. Mercredi dernier, ils ont perquisitionné les chambres et les véhicules de plusieurs membres de l'équipe et ont trouvé de nombreux médicaments, notamment des seringues et du sérum physiologique, un produit qui peut être utilisé pour diminuer le volume de globules rouges dans le sang. Une enquête a donc été ouverte pour, entre autres, administration et prescription à un sportif de substances interdites. Elle ne concerne ni l'équipe ni son encadrement, a réagi hier le manager d'Arkéa Samsic, mais un nombre limité de coureurs. La formation bretonne a déclaré qu'elle les soutenait, mais prévient qu'elle s'en désolidarisera si les soupçons sont confirmés.
Augustin Lefebvre, merci Augustin.
Il est 8h07, nous parlerons évidemment de Bridgestone tout à l'heure avec Adrien Quatennens. Parlons de casino.
Et oui, casino mis en cause pour son rôle supposé dans la déforestation en Amazonie. Figurez-vous, une coalition d'ONG demande au groupe français de faire le ménage dans sa chaîne d'approvisionnement de viande de bœuf. Elle lui reproche entre autres de ne pas être assez vigilant sur l'origine de sa viande vendue dans ses magasins du Brésil et de Colombie, Lauriane Toulmont.
Oui, c'est notamment la filiale brésilienne du groupe qui est visée par les ONG. Elle révèle dans une enquête avoir retrouvé dans 10 supermarchés la présence de viande de bœuf issue de fermes qui pratiquent illégalement la déforestation en Amazonie. Certaines de ces fermes sont indirectement liées à la chaîne d'approvisionnement de Casino. Elles passent donc sous les radars de contrôle du groupe. Et c'est là tout le problème selon les ONG qui, en application d'une loi de 2017 sur le devoir de vigilance des entreprises, donnent 3 mois à Casino pour se mettre en conformité. Sinon, elles iront devant les tribunaux. Un plan polémique et inutilement contentieux que déplore le groupe dans un communiqué publié hier. Casino qui dit respecter en tout point son devoir de vigilance.
Merci Lauriane Toulmont. Et puis la banquise, elle continue de fondre, Guillaume. Et cette année marque un triste record. Alors, la superficie estivale n'a jamais été aussi faible. On vivra bientôt des étés sans glace sur l'océan Arctique. Et ce n'est pas une bonne nouvelle.
Ouais, il est 8h08 sur l'antenne de Radio Classique. Nous évoquions tout à l'heure avec Emmanuel Faure les élections régionales en Italie. Voici pour rendre hommage à ce pays que nous aimons tant. Andrea Bocelli, né un 22 septembre. Il a 62 ans aujourd'hui. Et c'est un titre qui est célèbre dans le monde entier, qui nous rappelle Naples. Il a beaucoup changé, Bocelli. C'était Oasis il y a quelques instants. Conte partiro. Andrea.
Conte partiro. Paesi.
Alors Bah, si vous aviez la vidéo, vous verriez donc Adrien Quatennens et Guillaume Tabar qui sont en train de chanter Conte Partiro. Ce qui est assez réussi dans le cas d'Adrien Quatennens, qui, vous savez, est député du Nord, membre de la France Insoumise. C'est plutôt le rock'n'roll donc d'Oasis que nous écoutions tout à l'heure qui le concerne. Nous rediffuserons donc un petit peu d'Oasis et Liam Gallagher, qui avait 48 ans hier avec Quatennens. Mais nous parlerons évidemment surtout de la situation politique. D'abord, bonjour. Bienvenue. Voici la séquence politique. Voici Guillaume Tabar. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique et nous en sommes ravis.